Europe 1.
18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Jean-Sébastien Ferdiou, Louis Ragnel, Florian Tardif et on a le plaisir d'accueillir Rachel Kahn, que l'on connaît bien sur ce plateau. Bonsoir Rachel.
Bonsoir Laurence.
Pour parler précisément de votre livre, Encore debout, La République à l'épreuve des mots, aux éditions de l'Observatoire. Avant d'évoquer votre livre, vous vouliez réagir à la condamnation à mort d'un rappeur en Iran, tout simplement parce qu'il est un artiste. On n'a pas beaucoup entendu une manifestation de solidarité pour l'instant dans notre pays. C'est inacceptable.
Et encore une fois, ce silence. Ce silence, c'est même plus assourdissant. C'est d'une cruauté inimaginable, l'absence de responsabilité, alors qu'on a eu, on sait très bien quelle est la condition des femmes iraniennes aujourd'hui. Ensuite, de manière presque logique, de manière cynique, ce sont les artistes qui sont attaqués, simplement parce qu'il fait son travail d'artiste, simplement parce qu'il est libre, et nous ne sommes pas capables de réagir. Et les artistes se taisent. Normalement, on devrait avoir tous les artistes debout, justement, encore debout, face à cette ignominie.
Mais les artistes sont assez prudents, en général, sur le plan politique. On ne les voit pas vraiment s'engager sur tel ou tel combat. C'est si ou... En tout cas, là, depuis le 7 octobre, on ne les a pas beaucoup entendus.
Non, mais justement, c'est vrai que depuis le 7 octobre, il y a eu ce silence encore. Et dans mon livre, justement, je souligne que c'est cette phrase d'Albert Camus qui dit que les artistes sont non pas engagés, mais embarqués dans les douleurs de leur temps. Et normalement, ils sont là pour nous réparer, ils sont là pour nous montrer la voie. Les artistes sont ces législateurs de l'ombre. Et si on n'a pas ces artistes debout, c'est la démocratie qui s'éteint.
Ce qui vous inquiète aussi, au-delà de la situation en Iran, c'est la façon dont les universités, à la fois américaines et françaises, je pense à Sciences Po, sont gangrénées par une idéologie d'extrême gauche et par les manifestations pro-palestiniennes. Il y a eu des centaines d'arrestations aux États-Unis après des heurts extrêmement violents entre la police et des manifestants pro-palestiniens. Qu'est-ce qui est en train de se passer à vos yeux, Rachel?
C'est terrible parce que c'est déjà ce que je décrivais dans Racé, et ce livre-là, c'est la suite, la continuité de Racé, c'est ces luttes intersectionnelles, cette victimocratie, ces personnes qui vont à l'université, non pas pour apprendre, non pas pour la connaissance, non pas pour ouvrir des livres et s'enrichir et faire grandir nos humanités, mais au contraire qui utilisent au fond la lutte contre le racisme comme un cheval de Troie pour être grossièrement antisémites et rejouer finalement le jeu des années 40. C'est absolument détestable. Quand on pense aux États-Unis et quand on pense à New York surtout, avec ces communautés, toutes ces communautés qui se tenaient la main pour les droits civiques. Les Juifs étaient là pour que les Noirs puissent avoir leurs droits comme n'importe quel citoyen. Et aujourd'hui, en fait, ce sont des communautés avec cette intersectionnalité qui, au fond, déshumanise. Et c'est terrible, l'université, parce que ce mot « université », qui est normalement le mot en latin du « rassemblement », eh bien, aujourd'hui, l'université devient un lieu de séparatisme. C'est inacceptable.
Et parfois d'antisémitisme.
Et d'antisémitisme. Les étudiants
juifs sont menacés dans de très nombreux campus. Ce que vous dénoncez dans votre livre, c'est la captation de la parole par les extrêmes, notamment par l'extrême gauche. C'est extrêmement présent aujourd'hui dans notre société.
Oui, et c'est vrai que dans mon livre, alors j'utilise un procédé de me mettre dans la peau d'une avocate de l'extrême gauche pour mieux... définir la méthode, toujours les mêmes prises de parole, avec toujours les mêmes ressorts.
La victimocratie,
la disqualification, la calomnie, l'humiliation.
Le racisme systémique,
la police tue, etc., etc., l'islamophobie. Afin de disqualifier l'adversaire et finalement que tout échange soit impossible. Ce qui se passe à l'extrême gauche aujourd'hui, c'est terrifiant parce que on a le sentiment que finalement leur moteur, c'est de couper une tête par jour. Donc c'est les nouveaux Robespierre, notamment des réseaux sociaux. Et dans le même mouvement, le clergé avec cette accointance avec les frères musulmans, avec un islam radical, etc. Et c'est surtout une mouvance qui est éperdument raciste, puisqu'ils considèrent que lorsque vous avez telle ou telle couleur de peau, ma couleur de peau leur appartient. Si je prends la religion de mon père, qui est la religion musulmane, ma religion leur appartient et que je devrais me taire. Et donc, en réalité, ils sont profondément racistes.
Louis Dragnel, une question.
Il y a une question que beaucoup de gens se posent, c'est en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tous ces gens-là, il y a 20 ans, étaient déjà comme ça et se sont dissimulés et ont fait croire qu'ils n'étaient pas comme ça, et tout d'un coup, ils se révèlent à la faveur, ou à la, plutôt à la défaveur de ce qui s'est passé le 7 octobre ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils glissent ou qu'ils dérivent de cette manière-là ? Oui, selon vous,
selon moi, c'est ces renoncements que nous connaissons depuis 30 ans, 40 ans. C'est aussi de soutenir, pour acheter une forme de paix sociale, des associations, que ce soit culturelles ou sportives, pour, par clientélisme, en fait, pour acheter certaines communautés. Je crois que le principal moteur, et on est nombreux à le dire, hein, c'est alors soit de gagner certaines élections, soit d'arriver au chaos, puisqu'on est dans un langage politique qui est un langage séparatiste.
Et pour vous, ils étaient tous déjà comme ça, avant ?
Non, ils n'étaient pas tous déjà comme ça, mais par narcissisme aussi, par volonté d'exister. On est quand même dans une buzzocratie, c'est-à-dire qu'en fait, à raconter n'importe quoi pour pouvoir se faire remarquer comme des enfants, en fait. Mmh. Et c'est terrible, parce qu'ils ils sont censés, normalement, être... un modèle, enfin tout responsable politique est un modèle pour la jeunesse, qu'on partage ses idées ou non. Et là, ils sont d'une immaturité politique absolue.
Jean-Sébastien Ferjou.
Et qu'est-ce qui vous paraît le plus dangereux finalement ? Est-ce que ce sont les militants les plus radicaux ou est-ce que ce sont ceux qui laissent faire ? Parce que moi, ce qui me semble, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fondamentalement convaincus par les théories développées par les décoloniaux, les luttes intersectionnelles. Enfin, tout le monde ne lit pas Judith Butler dans le texte. D'ailleurs, je mets au défi quiconque de le lire en ayant compris véritablement ce qu'elle voulait dire. Mais il y a tous ceux qui se taisent par lâcheté ou parce qu'ils aiment bien être du côté de la majorité.
Oui,
est-ce que justement,
c'est plus
ça vous paraît
du
pas
côté du flot
Non, mais voilà. Est-ce que ça vous paraît pas plus dangereux parce que la radicalité a existé dans à toutes les époques, en quelque sorte. Ce qui compte, c'est la manière dont la majorité réagit.
Rachel
Carr. Pardon, j'ai répondu.
Non, mais c'est très juste. Et je me suis posé cette question dans le livre, puisqu'il y a quatre plaidoiries. L'extrême gauche, la plaidoirie de l'extrême droite et la plaidoirie, justement, de ceux qui ne se prononcent pas, en fait, qui sont en poste, mais qui laissent faire, qui regardent. Et justement, le fait de... le pas de vaguisme, c'est surtout pouvoir garder son poste tout en faisant croire qu'on agit. Être aux commandes, c'est faire des choix. Être aux commandes, c'est protéger nos fondamentaux. Alors, moi, c'est vrai que j'ai dans le cœur l'humanisme, l'universalisme, la République, mais ça demande un effort. C'est pas simplement dire ces mots-là, qui commencent à être un peu vides de sens, d'ailleurs, et ne pas mener des politiques fortes. Et effectivement, je pense que la responsabilité est extrêmement grande de ceux qui sont en poste et qui ne veulent pas trancher ni faire de choix pour acheter cette paix sociale.
Rachel, vous dénoncez les dérives de la gauche, mais aussi celles de la droite, avec les mots dont vous pensez qu'ils ternissent la République, par exemple. Lesquels mots ? Qu'est-ce qu'ils ne marche pas avec notre République.
C'est-à-dire qu'en fait, sur la partie de l'extrême droite, je suis partie des obsessions. Et j'ai vraiment le sentiment que l'extrême gauche, en n'analysant pas le réel, justement, en racontant un autre récit, en faisant croire que la police tue, le racisme systémique, etc., laisse en fait à l'extrême droite la possibilité d'avoir ce réel. Donc en fait, c'est un atout. Et c'est pour ça que l'extrême gauche est aussi fort aujourd'hui. Mais là où j'ai un problème, ce sont dans les obsessions de faire croire que...
C'est l'extrême droite qui est forte aujourd'hui.
Oui, l'extrême droite est forte aujourd'hui, mais dans des obsessions qui, selon moi, ne réparent pas la République. Notamment, l'obsession migratoire, pour moi, c'est pas l'alpha et l'oméga de toutes les politiques. Après... c'est sur la question du wokisme, en fait, que j'analyse aussi l'extrême droite. Je crois qu'elle s'est redorer son blason avec cette nouvelle notion qu'est le wokisme. Et c'est un paradoxe parce que l'extrême droite, qui est censée défendre la France, le patrimoine et notamment la langue française, je suis très étonnée qu'on utilise ce mot wokisme, qui n'est pas un mot parlant, qui n'est pas un mot que l'on peut appréhender pour pouvoir le combattre. Pour moi, c'est de la victimocratie.
Victimocratie, c'est le mot français. Florian Tardif.
On parle beaucoup des fractures dans notre société, on en parle moins d'une qui pourtant devrait nous préoccuper. Et on parlait tout à l'heure des radicalités qui ont existé de tout temps. Moi, ce qui m'impressionne, c'est l'attirance de la jeunesse, c'est de cette fracture-là que je parle, fracture générationnelle, entre la population plus âgée dans notre pays et la population plus jeune. D'ailleurs, ça se vérifie dans quasiment tous les pays du monde pour ces propositions radicales, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Comment vous l'expliquez que cette jeunesse soit à ce point-là attirée par cette proposition, ces propositions radicales ?
Des propositions populistes, et c'est pourquoi, avant chaque plaidoirie, je décris l'avocat, soit d'extrême gauche, soit d'extrême droite, parce qu'en fait, c'est toute une ambiance. Et effectivement, pour la jeunesse, je pense que c'est facile. Ce sont quand même pas mal de raccourcis qui sont faits. Et quand on lit notre Constitution, quand on s'intéresse à notre bibliothèque nationale, à nos écrits, eh ben, il faut aller dans le fond des choses, il faut comprendre des notions. La laïcité, c'est une notion complexe. Si on a un niveau scolaire bas, forcément, nos élèves se détournent de la laïcité et de l'histoire de la laïcité. Comment on en est venu à ce principe qui est une liberté et qui est un combat ?
Parce qu'ils ne la comprennent pas, évidemment, Jean-Sébastien.
Et vous évoquiez tout à l'heure le racisme. Mais justement, est-ce que le racisme, il y a du racisme revendiqué, bref, avec des filiations, idéologies, enfin revendiqué, bref, dont crapoteux, qui existe depuis longtemps, mais n'y a-t-il pas aussi beaucoup de racisme chez ceux qui voudraient assigner à résidence ? C'est-à-dire, typiquement, vous, bah, on a pu vous reprocher vos positions, ou à d'autres aussi, parce que comme s'il fallait absolument que les gens issus de minorités, quelles qu'elles soient, qu'elles soient religieuses, ethniques, liées à leur orientation sexuelle ou autre, il fallait absolument qu'ils pensent tel que, justement, ces victimocrates, pour reprendre votre expression, voudraient qu'ils pensent. Parce que le racisme, c'est aussi de se substituer, d'empêcher la liberté des autres et même de ne pas vouloir entendre ce qu'ils disent. Parfois, quand on nie, quand on entend ce qui est nié sur la réalité de l'islamisme, on se dit que c'est juste des gens qui ne veulent pas voir la vérité. Le mal ne peut être qu'occidental, les autres ne sont que nos victimes.
Rachel, quand même. Oui, bah, très, très juste. Effectivement, là, on est vraiment dans la continuité de Racé. Avec Encore Debout, et c'est ce que j'énonce dans cette plaidoirie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même terrible, cette déshumanisation à l'extrême gauche, ce racisme, ce racialisme à l'extrême gauche, ce racisme aussi, en fait, à l'extrême droite également, mais celui-là est très particulier parce qu'on vous empêche de penser, on vous essentialise, on vous assigne, on vous déshumanise, alors si vous avez le malheur d'être une femme libre, parce que je crois que... moi, j'ai une petite brochette de gens qui m'insultent, hein, mais on peut se dire, bah, pourquoi elle ? Mais au fond, c'est parce que juive, musulmane, femme libre, défendant la République, ça fait un bug et c'est impossible. C'est-à-dire que cette
ça rentre pas dans les cases.
Ça rentre pas dans les cases. Et c'est insoutenable. Et j'ai compris, en fait, que c'est mon existence qui est un problème pour ces dogmes-là. C'est mon existence même qui est un problème. Après, sur votre question, on doit se tenir encore debout contre toutes les formes de racisme et contre toutes les formes d'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bon antisémitisme, un mauvais antisémitisme. Toutes les intolérances, on doit se tenir debout. Exactement, bien sûr.
Rachel Kahn, vous parlez aussi de la liberté d'expression et vous dites que la lutte contre l'autocensure, c'est un enjeu fondamental parce que c'est la pire des tyrannies. On assiste à ça tous les jours.
Tous les jours. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, enfin, on s'en rend compte là, et de plus en plus violemment, que lorsqu'on se lève le matin encore debout, on est encore debout, mais est-ce qu'on va pouvoir être soi-même ? Est-ce qu'on va pouvoir être à la hauteur de nos morts ? Est-ce qu'on va pouvoir être à la hauteur de notre République, de ce qui nous a été donné en héritage ? Et on le sent bien, comment on doit batailler pour ne pas s'auto-censurer, comment ces dogmes-là ont fait qu'on est dans notre propre piège, en fait. Et je voulais souligner ça parce qu'on parle souvent de ces silences et on parle aussi de majorité silencieuse. Et lorsque je me déplace partout en France, c'est pas du tout la même ambiance que sur les réseaux sociaux, quoi. Et même quand on est dans les manifestations, c'est pas du tout la même. Donc je me dis, mais en fait, on a cette auto-censure qui est dans notre ventre et qu'il faut impérativement dégager, parce que lorsque on regarde notre héritage, eh ben on doit se tenir debout et être vigilant par rapport à soi-même pour ne pas nous créer nos propres prisons.
J'espère que nous soyons assez peu nombreux à nous réveiller le matin en pensant à tout ça, ma chère Rachel, mais c'est vrai que voilà, il faut s'en souvenir chaque jour.
Oui.
Un dernier mot, Jean-Sébastien ?
Président de la République.
Pardon ?
Vous pensez être...
Non, personnellement ? Non, Dieu merci, non, vraiment pas. Louis, peut-être ?
Candidat à la... Ah non, j'aime beaucoup ce que je fais.
C'est vrai?
Oui, oui, c'est un monsieur passionnant.
Non, j'avais non, une dernière question. Une dernière question, mais rapidement, on est bientôt à la fin de l'émission.
Une question, c'est que depuis quelques mois, quelques années, il y a une forme de sursaut avec des personnalités comme vous qui alertaient. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est plutôt près d'un réveil collectif ou est-ce que c'est simplement, voilà, simplement une petite minorité de personnes qui ouvrent les yeux et avec le reste des Français qui soit sont atones, soit sont donc indifférents ou voire... peuvent accompagner et pourquoi pas soutenir le wokisme, même si vous n'aimez pas le mot.
Non, mais je crois que moi j'avais peur beaucoup de nos fatigues, justement, de cette fatigue, on se détourne, et vous l'avez dit dans l'édito, on se détourne en fait de la, entre guillemets, classe politique. Mais je pense qu'on est encore debout et qu'on est en train de se réveiller.
On est plutôt plus nombreux ou moins nombreux qu'avant.
On est plus nombreux qu'avant.
Une petite touche d'espoir.
Quand même. Oui.
Merci beaucoup Rachel Kahn. Encore debout, Laurent. La République à l'épreuve des mots, édition de l'Observatoire. Merci à vous. Dans un instant, Europe 1 soir, Louis de Ragnel avec un invité politique.
Oui, Prisca Thévenot, qui est
porte-parole du gouvernement.